Chapitre 17. Escalader le premier ressaut, même à l'aide des cordes fixes installées par le diacre, se révéla épuisant. Toute action était épuisante à plus de 8500 mètres d'altitude. Mais une fois en haut, nous avions au moins la satisfaction de ne plus être dans le champ de vision des 5 alpinistes allemands qui nous suivaient. Juste après que nous eûmes remonté nos cordes de la face du ressaut, Reggie ne put s'empêcher de baisser son masque pour doucher mon soulagement tout neuf.
« Bien sûr, » dit-elle, « si Seagull a vraiment affronté mon cousin Percy et Kurt Meyer sur cette portion de l'arête nord-est, comme Camille Shearing a cru le voir, ça signifie que Seagull est déjà monté jusqu'ici. Il détient peut-être le record d'altitude. Pour une personne vivante, je veux dire. Si ça se trouve, il connaît une voie plus rapide pour contourner ce premier ressaut. À quelle altitude est monté le colonel Norton lors de son ascension du grand couloir ?
Demanda Jean-Claude.
La même que sur cette arête où nous sommes ? Dans les 8500 mètres, non ?
Norton a fait demi-tour à 8572 mètres, dit le diacre. Somerville a atteint les 8530 mètres derrière Norton. Mais en traversant la face nord, sans s'aventurer très loin dans le grand couloir. Qu'importe les records d'altitude, si Seagull et les autres Allemands connaissent une voie plus rapide pour contourner le ressaut,
dis-je, haletant par-dessus mon masque. Le diacre m'ignora et pointa le doigt vers l'abrupte face nord. Le grand couloir ressemblait à une balafre blanche et verticale sur cette face sombre.
Norton et Somerville sont montés là-haut, à plusieurs centaines de mètres à l'ouest de là où nous nous trouvons, dans l'alignement du sommet, avant de faire demi-tour. Nous battrons le record de Norton si nous continuons à escalader, le long de cette arête, jusqu'à la base du deuxième ressaut, à 8620 mètres.
À 220 mètres du sommet,
murmura J.C. Ces mots étaient presque inaudibles dans le vent qui nous faisait pencher et agitait chaque pan libre de nos vêtements comme du linge sur une corde dans la tempête.
« Environ 220 mètres, » acquiesça le diacre, « mais à une certaine distance à l'ouest, soit entre 3 et 5 heures d'escalade à partir d'ici. « Allez, j'aperçois le champignon. Pas vous ?»
Nous tentâmes de voir quelque chose au milieu des rafales de neige qui cinglait douloureusement les rares parties de peau exposées de nos visages. À peu près à mi-chemin entre ce premier ressaut et le deuxième, beaucoup plus imposant et terrifiant, il y avait un bloc bas dont la forme évoquait en effet un champignon.
« On ne peut pas rester sur cette ligne de crête !» cria Jean-Claude. « Trop étroite, trop venteuse, trop exposée aux tirs des Allemands s'ils gravissent ou contournent le premier ressaut !»
Le diacre hocha la tête et commença la traversée en descendant sur la face nord, où il tenta de trouver des prises de pied et une voie vers l'ouest. Nous nous étions divisés en deux cordées. Le diacre, Reggie et Passang sur la première, Jean-Claude et moi sur la seconde. Avant que nous entamions cette traversée périlleuse, je criai à Reggie
« Que fait-on pour tenter de repérer Lord Percival dans cette partie ?»
« Tâchez seulement de ne pas tomber !»
me cria-t-elle en réponse.
« D'après ce que j'ai vu avec les jumelles, il semble y avoir un endroit relativement plat au niveau du champignon. Nous ferons une pause là-bas pour examiner les environs. À mon avis, si Percy et Meyer sont tombés de l'arête nord-est, c'était de là !»
Nous descendîmes donc sous la ligne de crête pour y chercher une voie de traverse. La perspective sur ce passage de rochers friables et de bandes de neige était terrifiante. Les tentes sur le col nord, 1500 mètres plus bas, m'apparaissaient comme des petits points. Entre nous, il n'y avait qu'un kilomètre et demi de vide, bien que je ne puisse pas voir s'il s'agissait des nôtres ou de celles des Allemands. J'étais sûr, en revanche, qu'en cas de chute, nos corps, en rebondissant dans la pente, seraient déchiquetés en 1000 morceaux qui s'éparpilleraient sur le glacier du Rongbuk Est, à l'est de notre ancien camp 3. Pour rajouter à notre sentiment de vulnérabilité, trois d'entre nous arrivèrent à la fin de leur première bouteille d'oxygène, et nous dûmes nous arrêter sur ce sol inégal et nous aider les uns les autres à sortir les cylindres vides de nos sacs à dos et à débrancher les tubes et accessoires. D'un geste délibéré, Reggie brandit alors sa bouteille en métal et la lança. Elle atterrit 60 mètres plus bas, puis continua de rebondir en dévalant la face nord longtemps après avoir disparu de notre vue. Ce foutu cylindre sembla résonner pendant un temps infini. Je conclus à cet instant que Lady Reggie Bromley-Montfort avait un côté sadique. J.C. et moi lançâmes aussi nos bouteilles, mais comme ça me perturbait de regarder la chute sans fin de la mienne, je me retournai vers la paroi rocheuse et posai mon front coiffé de cuir contre la roche froide. Ayant branché un nouveau cylindre, Jean-Claude et moi vérifiâmes que la valve de débit de nos appareils était bien réglée sur 1,5 litre par minute et le régulateur ouvert. J'avais besoin d'oxygène sur cette partie. Je ne voulais rien faire d'idiot, ni que mes mouvements soient plus maladroits que nécessaire. Je fus tenté de passer au débit supérieur, mais savais que je devais économiser l'air anglais qui restait. Ce qui rendait cette traversée si périlleuse était le sol instable. Toute la pente, sur 50 mètres sous l'arête, était formée de petites dalles inclinées et branlantes, de roches concassées et glissantes, et de véritables gravières. On aurait dit du schiste fracassé par des siècles de gel et de dégel. Il y avait aussi, entre les blocs, ce qui ressemblait à d'innocentes plaques de neige, mais étaient en fait des puits profonds. Des pièges à tigres, les appela Reggie, et je supposais qu'elle savait de quoi elle parlait après tant d'années passées en Inde. Je doutais pourtant que les éminents membres du Raj piégeaient les tigres dans des fosses de neige. On pouvait s'enfoncer jusqu'à la poitrine dans ces trous, et les autres auraient un mal fou à sortir celui ou celle qui y tomberait. Le diacre évita ces pièges, tâtonnant toujours devant lui avec son long piolet, puis pointant l'instrument pour nous montrer ses puits ainsi que les passages glissants. Jusqu'ici, personne n'était tombé dedans, ni n'avait basculé de côté. C'est alors que nous arrivâmes dans un cul-de-sac. « Enfer et damnation !» entendis-je le diacre chuchoter à 10 mètres devant moi. Comme tout le reste ici, les mots étaient projetés d'ouest en est. Ce n'était pas exactement un bloc qui obstruait le passage, mais plutôt une longue extension de granit lisse qui partait de l'arête au-dessus jusqu'à un point à environ 6 mètres sous notre chemin de traverse. Je vis tout de suite qu'il n'existait pas de manière facile de passer sous, au-dessus ou sur cet obstacle. Au-dessus de nous, la masse de roches lisses se transformait en arête aérienne, un haut pinacle cranté et friable qui se confondait avec l'arête nord sur ses quelques mètres fatales. Personne n'était en état d'escalader ça ce jour-là. Du moins, pas en partant de là où nous nous trouvions. Notre ligne de traverse, à ce niveau, sous l'arête, offrait la meilleure solution aux problèmes posés par cet obstacle, mais comme souvent les meilleures solutions aux problèmes d'alpinisme, celle-là puait à plein nez. C'était un pas à l'aveugle, un saut dans l'inconnu. Le genre de mouvement que tente un grimpeur dans les Alpes, 6000 mètres plus bas que notre altitude actuelle, lorsqu'il doit contourner une dalle lisse en espérant que la simple adhérence de son corps déployé contre le roc vertical l'empêchera de tomber pendant les 3 ou 4 secondes dont il aura besoin pour poser le pied de l'autre côté. Un côté invisible à cause de la courbure de ce foutu rocher. L'alpiniste ne peut donc que prier pour qu'il y ait une prise de main ou de pied de l'autre côté. Parfois, c'est le cas. Trop souvent, comme le prouve le nombre de morts tous les ans chez les alpinistes, il n'y en a pas. Ce genre de pas aveugle était dangereux dans les Alpes, mais on pouvait réchapper d'une chute si le partenaire disposait d'un relais solide. Aucun de nous, sur cette traversée glissante, n'avait de relais digne de ce nom. Et si nous nous mettions à 4 pour assurer le diacre, ou celui qui serait assez fou pour tenter le coup, une chute nous arracherait sûrement tous les 5 de cette face nord. Il y avait bien quelques protrusions de roches à nos pieds et au-dessus de nos têtes, mais aucune assez grosse ou solide pour servir d'assurage, et même la corde miracle du diacre risquait de casser sur un relais aussi tranchant.
« Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? »
criai-je de l'arrière.
« On retourne au premier assaut pour réfléchir ! On lance des cailloux sur les Allemands ! » !»« Pas question de faire demi-tour !»
cria le diacre en réponse. Il se désencorda, puis retira sa veste Shackleton et son duvet Finch avant de remettre la gabardine. Il fourra sa parka et ses deux paires de moufles dans son sac à dos qu'il tendit avec précaution à Reggie pour qu'elle le pose entre elle et la paroi. Le voyant baisser les yeux sur son pantalon de duvet et ses bottes rigides, je compris qu'il envisageait de retirer ses crampons 12 points. Finalement, il choisit de les garder. Il reprit ensuite la corde et la noua autour de sa taille. Je crus que seuls J.C. et moi avions remarqué qu'il avait fait un nœud coulant, sûr de se défaire sans imprimer de tension sur l'assureur en cas de chute. Je compris et ne dis rien. Jean-Claude fit comme moi. Ce fut sans doute à cet instant que je mesurai pleinement le courage de Richard Davis Deacon. Reggie s'écria
« Non ! Nous devons au moins essayer de vous assurer ! Je vous en prie, Richard !»
Le diacre ne lui adressa même pas un regard.
« Il n'y a aucun relais possible sur cette piste où je vous ai entraîné !»
dit-il, contemplant déjà la paroi lisse qu'il lui fallait franchir. Je sentis qu'il passait en revue ses mouvements dans sa tête, répétant mentalement ce qu'allait devoir faire son corps quelques secondes plus tard.
« Très bien, » dit-il.
Il tendit la jambe droite aussi loin que possible et se projeta sur la surface lisse du contrefort. Aussitôt, il se mit à glisser, et plutôt que de suivre l'instinct humain consistant à serrer les doigts à la recherche d'une prise, alors qu'il n'y en avait aucune, le diacre les écarta et pressa les paumes, ainsi que le ventre, le pubis et le tissu de montgolfière de son pantalon contre la roche lisse. Il ralentit et s'arrêta presque. Il n'était plus relié à la montagne que par l'infime force d'adhérence. Je savais d'expérience que ce n'était pas suffisant pour l'empêcher de glisser et de tomber. Et il tombait. Son épouvantable glissade vers le surplomb ralentit, puis reprit inexorablement. Le diacre n'attendit pas. L'adhérence et la vitesse étaient ses seules armes, et des deux, la vitesse était la plus importante. Il se déporta vers la droite en glissant, bras et jambes toujours écartés, les paumes, la joue, le ventre, les cuisses et les pointes de ses crampons collés au rocher, luttant avec toute la force de son corps épuisé pour ne pas être emporté. Et quand il eut glissé jusqu'à l'extrémité de la colonne arrondie, il se laissa tomber de l'autre côté du ronflement, comme s'il était sûr qu'une vire ou une prise de main ou de pied l'y attendait. Évidemment, il n'en savait rien puisqu'il ne voyait pas ce qu'il y avait de l'autre côté de la colonne rocheuse. Il aurait pu simplement y avoir une autre colonne tout aussi lisse. Le diacre disparut, et pendant un long moment, il n'y eut aucun son et aucun mouvement. Mais la corde ne s'était pas défaite, le nœud coulant ne s'était pas dénoué. Pour l'instant. Surtout, il n'y avait pas eu le cri accompagnant la chute d'un corps humain. Je me demandais si le diacre crierait en cas de chute. Enfin, une voix ferme retentit de l'autre côté du renflement de roche.
« Merveilleuse vire de ce côté ! Relais parfait avec assurage sur roc ! Et je vois par où nous pourrons facilement grimper vers le champignon !»
Nous relâchâmes tous notre souffle sans dire un mot. Quelque part, au fond de mon esprit fatigué, demeurait la question primordiale. Que se passera-t-il quand nous devrons revenir par le même chemin? Normalement, dans ce genre de situation, un grimpeur utiliserait une ou plusieurs cordes fixes. Un alpiniste quincaillier allemand trouverait peut-être la plus infime fissure ou planter des pitons en guise de prise de pied. Mais on ne pouvait pas installer de cordes fixes ici. Cela ne ferait qu'aider nos poursuivants. Et j'espérais, je l'avoue, qu'au moins un des Allemands ferait une chute mortelle sur cette colonne aveugle. Mais non. Si Camille Schiering disait la vérité, le grand alpiniste allemand Bruno Siegel avait déjà résolu ce problème une fois.
« Je prends seul le relais !» reprit le diacre de l'autre côté de la colonne.
J.C. et moi comprîmes ce que ça voulait dire, et Reggie sûrement aussi. Ça signifiait qu'il nous interdisait d'essayer d'assurer de notre côté. Les bottes de Reggie glissèrent, mais elle résista. La corde se tendit du côté du diacre et il la tira littéralement pour qu'elle passe la colonne et le rejoigne de l'autre côté. Passang déploya son grand corps et franchit l'obstacle avec l'aisance d'une araignée. Jean-Claude réussit grâce à l'adhérence et une vitesse record. J'y parvins aussi, quoique en toussant dans ma précipitation. Nous nous retrouvâmes tous les cinq sur la vire, de l'autre côté, et j'aperçus la voix dont le diacre nous avait parlé, qui montait entre les rochers en surplomb.
« C'est assez près de l'endroit où l'arête s'élargit au niveau du champignon, d'après vous ?»
demanda Reggie.
« Oui !»
répondit seulement le diacre. Ensuite, encordés tous ensemble, cette fois le diacre fit un solide nœud de 8 gansés, nous grimpâmes en plantant nos crampons jusqu'à l'arête. Le soleil avait dépassé son zénith. Le vent était plus fort et plus froid qu'avant. La couronne lenticulaire autour du sommet de l'Everest formait une grande masse grise penchée sur la montagne. Elle me rappela le bonnet de laine effiloché posé de guingois sur le cadavre de Sandy Irvine. Nous étions trop occupés à souffler pour nous en préoccuper. Après des kilomètres de dalles inclinées et glissantes, cette partie plus large et surtout plus plate de l'arête, de part et d'autre du champignon de pierre, qui mesurait environ 2,50 m de large sur 4,50 m de long, nous apparut comme un grand terrain de football.
« L'endroit idéal pour un camp !» fit remarquer le diacre. « Vous plaisantez ? »
dis-je. Je devais retirer mon masque à oxygène à chaque quinte de toux.
« Nous sommes à plus de 8800 mètres !»
Nous avions le cœur dilaté et les muscles affaiblis. Nos reins, notre estomac et nos autres organes internes ne fonctionnaient plus correctement. Notre sang épaissi menaçait de provoquer des embolies. Nos globules rouges manquaient de l'oxygène qui leur était nécessaire, tout comme nos neurones, qui fonctionnaient comme une automobile consumant ses dernières gouttes d'essence. Nous étions, métaphoriquement, à deux doigts de l'hypothermie, qui, avant l'endormissement fatal, se manifestait par de terribles symptômes, tels qu'une folle agressivité ou un besoin de retirer ses vêtements alors même qu'on gelait, et très concrètement à quelques centimètres d'un précipice de 2700 mètres côté sud et de 3000 mètres côté nord. Pour l'heure, cependant, nous étions très heureux. Il n'y avait pas encore d'Allemands armés en vue, et nous avions atteint notre objectif temporaire. De plus, le diacre avait peut-être raison. Ce serait un sacré camp. Grâce aux bouteilles d'oxygène, des alpinistes pourraient passer une relative bonne nuit de sommeil, surtout dans la tente coupe-vent de Reggie, se mettre en route de très bonne heure avec les lampes frontales de mineurs et, après 2 heures ou 2 heures et demie d'escalade, atteindre le sommet du monde. Sauf, bien sûr, si les vents se levaient pendant la nuit, ou si les Allemands ouvraient le feu, ou si nous mourions de froid avant. Peu importait. Nous nous laissâmes tomber sur une solide petite plateforme de neige sur le côté nord du champignon, réglâmes nos appareils pour profiter de 5 minutes d'oxygène à haut débit, le regard vague derrière nos lunettes. Seul Reggie s'activait, même si je ne comprenais pas du tout ce qu'elle fabriquait. À l'extrémité nord de notre plateforme, il y avait une petite extrusion de roche qui s'était transformée en corniche de neige au fil des années, voire des décennies. Même dans notre hébétude, nous savions tous que cette corniche était synonyme de mort. Un pas dessus et elle céderait sous le poids de l'homme, ou de la femme, qui tomberait en chute libre jusqu'au glacier du Kangchung. Mais Reggie rampait vers le bord de cette dangereuse corniche de neige. JC fut le premier à comprendre que nous étions sur le point de perdre notre grimpeuse. Il baissa son masque et s'écria
« Reggie ! Arrêtez ! Que faites-vous ? Stop !»
Elle nous jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Elle avait remonté ses lunettes et son visage, du moins le peu qu'on en voyait autour de ses yeux, ne trahissait aucune démence. Il est vrai que les victimes d'hypothermie ont rarement l'air folles, même quand elles se lancent dans leur dangereuse facétie.
« Il manque un morceau de la corniche! Vous voyez? Là !»
demanda-t-elle. Sa voix paraissait légèrement excitée et haletante, mais pas forcément déraisonnable. C'est alors que nous vîmes le morceau manquant, à moins de 2 mètres à gauche du plongeoir de Reggie pour l'enfer.
« Et alors ? » dis-je. « Revenez, Reggie ! S'il vous plaît !»«
Oh, la ferme, Jake »
répliqua-t-elle par-dessus le mugissement du vent. Elle pointa du doigt l'arc de cercle d'1,50 m environ qui semblait avoir été arraché de la corniche.
« Lady Montfort Bromley suggère que quelqu'un est peut-être tombé de là !» expliqua Passang avec son accent distingué d'Oxford. « Peut-être l'année dernière !»«
Si c'était le cas !»
dis-je entre deux accès de toux.
« La corniche se serait reformée !»« Pas forcément !» dit le diacre. « Allez-y, Reggie !»« Mais faites attention !»
Elle continua à ramper sur cette petite saillie surplombant le vide, qui n'aurait sûrement pas supporté mon poids, puis attrapa ses jumelles qu'elle avait passées derrière son dos. Regardant en bas, elle balaya lentement la pente deux fois, puis se figea.
« Ils sont là !»«
Qui ? »
m'écriai-je. Ma première pensée fut que les Allemands nous attaqueraient par la paroi verticale du côté sud.
« Meyer et mon cousin Percival !»
répondit Reggie d'une voix plate.
« Comment pouvez-vous voir jusqu'au glacier avec ses jumelles ?»
demanda Jean-Claude. Reggie soupira, secoua la tête et cria pour se faire entendre malgré le vent.
« Ils ne sont pas tombés aussi loin et ils sont toujours encordés. La corde s'est accrochée à une aiguille de roche à environ 30 mètres sous cette arête. Le corps de Meyer pend, la tête en bas, du côté gauche de l'aiguille. » « Et Percy est accroché de l'autre côté et tourne dans le vent !»«
La fine corde de Mallory a résisté à la chute sur un rocher coupant, puis à une année d'usure à cette altitude ?»
murmura Jean-Claude. Reggie ne put l'entendre dans le vent, mais le diacre répondit
« Qui sait ?»
Puis il ajouta plus fort
« Maintenant !» Nous devons trouver un moyen de les remonter tous les deux avant que cette corde ne finisse par se rompre.
Je songeais aux Allemands toujours à nos trousses. Avaient-ils déjà atteint le premier ressaut, la colonne rocheuse sur la traversée? Le diacre avait dit que Bruno Siegel n'abandonnerait jamais. Le nazi avait un Luger et la carabine du diacre, et d'autres fascistes armés avec lui. Je décidai de ne pas mentionner les Allemands, ni de penser à eux.
Déroulez les cordes, dit le diacre. Reggie, restez où vous êtes. Nous allons venir vers vous. Quelqu'un doit descendre pour enrouler une corde autour des deux hommes.
J'y vais,
dit J.C.
Je suis le plus léger.
Le diacre hocha la tête. Dieu merci, ce ne sera pas moi, pensai-je. Puis j'eus aussitôt honte.